Je vous rappelle que le premier sujet avait été une réflexion sur nature et morale que nous avons eue au premier trimestre. Au second trimestre, nous avons envisagé le problème de la liberté, du fondement de la notion de liberté d'après la Torah. Et puis, ce soir, nous allons ouvrir une étude sur la notion de vérité. Je voudrais vous dire très rapidement quels seront les principaux sujets du déroulement du séminaire. Vous arrivez à m'entendre ? Mal. Alors, je vais essayer de m'orienter. Et nous avons donc toutes les matinées, il y a un écho. Nous aurons donc dans les matinées une étude de texte sur un certain nombre de références du Talmud et du Midrash commentées par le Maharal de Prague dans Netivot Olam et en particulier dans le chapitre qui concerne la définition de la vérité de la Torah, c'est-à-dire de la vérité qui a été révélée à Israël à partir de la révélation du Sinaï et à travers la révélation des prophètes d'Israël. Ce sera donc une étude de texte très traditionnelle. Et puis, pendant les soirées, nous allons envisager les deux points de vue de l'approche de la vérité dans le monde de la pensée qui suit la fin de l'histoire de la prophétie. Ce soir, je vais ouvrir cette problématique par un essai, une tentative de définition de l'approche philosophique de la vérité et de l'approche de l'exégèse traditionnelle de la prophétie biblique. Cela a été intitulé « Le prophète et le philosophe, deux hommes de vérité, point d'interrogation ». Il y a là deux conduites de la réflexion humaine que je tenterai de définir en tout cas dans les fondements. Demain soir, nous avons demandé au rabbin Bernheim d'explorer la notion de recherche de la vérité dans l'étude talmudique, dans l'univers de la pensée talmudique et dans les deux grandes directions de la réflexion talmudique, la halakha, dans l'étude de la vérité de la loi, de la législation révélée, et la haggada, dans l'étude de la formulation des significations de la Torah. Et nous aurons donc cette mise au point demain soir. Mercredi soir, c'est le docteur Prince qui parlera de la conception de l'atteinte, de la recherche de la vérité, de la définition de la vérité dans l'enseignement du Midrash. Jeudi soir, M. Waknin parlera de la tension entre la recherche d'une vérité scientifique et d'autre part celle de la vérité théologique. Ce seront donc quatre conférences qui essaieront de cerner cette notion de vérité dans ce que j'appellerais l'univers de la pensée juive contemporaine, qui est aux prises avec une double polarité, celle de la réflexion philosophique et scientifique d'un côté, celle d'autre part de l'exégèse traditionnelle renouvelée, comme vous le savez, dans la génération où nous vivons, ce qui est un événement récent, important et qui mérite d'être cadré, situé, défini dans cette problématique de la pensée contemporaine. Tout ceci sera récapitulé dans une table ronde qui rassemblera tous les conférenciers dimanche après-midi, suivant l'intitulé « Y a-t-il une conception juive de la vérité ?» Je voudrais dire quelques mots sur ce que sera la table ronde de conclusion. Vous savez que depuis, disons, la sortie de clandestinité de la pensée juive en tant que pensée spécifique, et nous sommes toujours menés à nous demander s'il y a une conception juive de telle ou telle catégorie des notions intellectuelles, spirituelles, des notions de vérité en général. Cela peut sembler un sujet banal ou une méthode banale d'approche de la confrontation entre la spécificité de la tradition juive et la pensée en général, la culture en général. Mais je crois que par rapport à ce sujet, il y a un intérêt particulier. S'il y a une spécificité de la conception juive de la vérité, il ne peut s'agir que d'une référence à ce qui a été le caractère particulier de la tradition d'Israël depuis l'origine. c'est-à-dire la référence à une révélation, à une prophétie qui était connue, transmise, escalopée, comme étant une révélation de Dieu à sa créature. Comme nous sommes dans un temps de la culture universelle où le phénomène de la révélation prophétique escalopée a cessé, comme nous sommes dans un univers de problématiques intellectuelles qui, par postulat, pose notre problème comme si, je dis bien, il n'y avait jamais eu de révélation, il y a là une problématique qui, je crois, doit être considérée avec sérieux. C'est un peu ce thème, ce problème, ce sujet que nous essaierons d'explorer pendant toute cette semaine, et je pense que ça nous mènera dimanche prochain après-midi. Vous avez les horaires dans les programmes qui vous ont été distribués à une première mise au point sur ce sujet. Eh bien, cette notion de vérité est une notion qui traverse l'enseignement de la tradition juive. Je définirai la tradition juive à plusieurs reprises comme étant l'exégèse de la prophétie hébraïque. Je voudrais parler très brièvement d'un des principes de définition de l'importance de la notion de vérité dans la tradition juive, par une référence qui nous dit que, dès le moment de la création, le Créateur, selon l'ordre de la révélation biblique, selon l'ordre du récit biblique, se cache derrière une trace qu'il laisse dans son monde et qui se nomme vérité. La formule traditionnelle est « Chotamo » chez la Kadosh Baruch Hu, « Emet ». Le sceau, le scellement de ce retrait de Dieu, de sa création, pour que l'histoire de la création puisse se développer, et nous y reviendrons à chacune des étapes de ce développement, c'est la vérité. Tout se passe comme si Dieu, se cachant derrière l'apparence de la nature, pour que l'histoire du monde puisse se développer, en vue de résoudre le problème de l'épreuve morale, et pour cela, il fallait une garantie de la liberté de la créature. Je récapitule ainsi en quelques phrases l'ensemble des séminaires que nous avons eus cette année. Nature et morale, liberté, vérité. Il fallait donc que tout se passe comme si le monde ignore la présence de son Créateur. Si la présence du Créateur se dévoile, la créature n'est pas libre. Et donc, l'histoire du monde, commençant ainsi dans ce retrait de la présence de Dieu qui se cache pour fonder la liberté de la créature, laisse un vide. Le premier enseignement que nous avons à travers la formule que je viens de citer, c'est que ce vide est comblé, caché, garanti par le pressentiment d'une vérité. Il y a un pressentiment de l'absolu qui s'est caché. Et la trace de ce pressentiment se nomme, selon la tradition, les textes que nous étudions, vérité, émet. En particulier, les commentaires traditionnels de cette formule indiquent que cela peut se lire dès les premiers versets du récit biblique parlant de la création. Je vous donnerai deux de ces citations. Les trois premiers mots du premier verset de la Bible, c'est « Bereshit bara Elohim », au commencement, Dieu avait créé, et les dernières lettres de ces trois mots forment le mot de vérité. Bereshit, la fin, c'est le Tav, bara, Aleph, Elohim, Mem, Aleph, Mem, Tav, forment le mot de vérité. Comme si, à la fin des mots qui disent le commencement, comme une trace qui est laissée par cette révélation, il y a un signe que l'absence de Dieu n'est pas totale. Ce retrait a laissé une trace, et que cette trace dans le monde, c'est la vérité dont la pensée humaine a exigence. Lorsque la pensée humaine vit effectue cette exigence de la recherche du sens de son existence, elle découvre le pressentiment d'une vérité, mais cette vérité, selon cette première citation, cette vérité renvoie à un créateur qui, se retirant sa présence, la contrainte de sa présence, pour fonder la liberté de la créature, laisse une trace de sa présence qui est la vérité. Ainsi, ce qui, pour la pensée en général, semble être le point ultime auquel on aboutit en fin de compte, on connaît la vérité, pour la pensée traditionnelle, n'est que le commencement du dévoilement d'une présence qui s'est cachée. C'est la formule que j'ai citée tout à l'heure, « Rotamo, c'est la Kadosh Baruch Hu, Emet ». Lorsque la créature retrouve la trace de la vérité, elle trouve, si l'on peut dire, la signature du fait qu'il y a eu un créateur. Cela nous indique dès l'emblée que l'univers de la pensée traditionnelle, qui se définit en tant qu'exégèse de la révélation biblique, est au-delà des limites que peut atteindre la pensée humaine. Ce sera donc la première référence sur laquelle nous sommes invités à réfléchir. Il y a une deuxième indication à la fin des versets du récit de la création, ce sont les trois mots Asher bara Elohim la'asot. À la fin du récit de la création, le texte de la Bible nous enseigne que Dieu ayant créé, façonné le monde qui sera la demeure de l'homme, va laisser de nouveau cette trace de la vérité qui scelle l'histoire qui commence, le monde que Dieu avait créé en vue d'agir, en vue que une histoire se fasse. Asher ba Elohim la'asot, et de nouveau, les trois dernières lettres, les trois derniers mots forment le mot de vérité. Bara se termine par le mot, la lettre Aleph, Elohim met la'asot, j'ai dit Elohim même, la'asot tav. Et c'est le mot de Emet. Cette fois, les Safetevot, la fin des mots, restituent le mot de Emet dans l'ordre. Aleph, Mem, Tav. Un des grands commentateurs que nous étudions habituellement dans ces séminaires, le Maharal, indique en quoi ce mot de Emet, la vérité, est le sceau du monde en tant que création. Et en effet, la lettre Aleph est la première lettre de l'alphabet, la lettre Tav en est la dernière, et la lettre Mem est celle du milieu de l'alphabet. Si nous visualisons le mot de Emet, cela commence par le commencement de la vérité, cela se réalise par l'insertion de la vérité dans la réalité, ce qu'indique la lettre Mem, et cela s'achève dans la totalisation, dans la réalisation du projet de vérité, ce qu'indique la lettre Tav. Donc, je le répète brièvement, le mot de Emet enferme, récapitule l'ensemble des lettres de l'alphabet qui formule, qui désigne, qui exprime les éléments de la création qui, lorsque elles sont organisées dans l'ordre de vérité, font apparaître l'être de vérité. Emet, c'est l'ensemble de l'alphabet organisé depuis le début Aleph jusqu'à la fin Tav, avec comme point central l'insertion de la vérité dans la réalité qui est indiquée par la lettre Mem. Donc, pour récapituler ce premier ensemble de références, le mot de Emet est entendu en hébreu dans le sens de l'hébreu biblique, du vocabulaire de la Bible, comme étant la trace, le sceau que le Créateur a laissé dans la création. Vous savez que, selon le récit biblique, l'histoire de la création commence par le chaos. Par définition, si le monde est connu, considéré comme la créature du Créateur, ce qui est la nature profonde du monde est l'inverse absolu de ce qui est la nature profonde du Créateur. Si c'est l'ordre absolu qui désigne l'être du Créateur, c'est donc le désordre absolu qui indique l'être de la créature. Il ne faut pas s'étonner que selon la cohérence du récit biblique, l'histoire du monde commence par un chaos. Si vous relisez ces premiers versets du récit biblique, eh bien, on ne peut pas ne pas être pris d'étonnement. Comment se fait-il qu'un monde créé par l'être qui est Dieu, je ne voudrais pas employer le terme de parfait, mais enfin, employons-le quand même, puisque nous parlons une langue dérivée du latin, que l'être parfait ait créé un monde dont le commencement de l'histoire soit le chaos. On est tellement familier, habitué à ce récit biblique, qu'on a perdu l'habitude de s'étonner devant ce qui nous est révélé là. Au commencement, c'est Dieu qui a créé le monde, et voici que le monde commence son histoire dans le tohu wabohu, c'est-à-dire dans le chaos, comme si cela était normal. Cette apparence de normalité vient uniquement de la familiarité que nous avons avec le récit. Il y a vraiment un étonnement à retrouver. Alors, cette explication de l'ordre du monde qui est à construire, à façonner dans l'ordre de la vérité, et qui découle de l'enseignement du Maharal que je viens de vous citer, resitue l'importance de ce premier enseignement de la Bible. Par définition, le monde commence son existence dans l'opposé absolu de la nature de Dieu. Si la nature de Dieu est celle de l'ordre absolu, alors il est normal que la nature du monde soit d'abord celle du désordre absolu. Et il n'y a pas à s'étonner de cette opposition de définition. Par définition, le monde commence son histoire dans l'imperfection. L'imperfection absolue étant le désordre absolu, c'est-à-dire le chaos. Et tout l'effort de l'histoire, de l'organisation du monde pour qu'il aboutisse au terme du projet de son créateur, c'est l'histoire de la conquête, de l'émergence d'une vérité cachée, pressentie, comme le sceau que le créateur a laissé dans sa création. Il faut organiser le chaos des éléments du monde qui s'exprime dans les lettres de l'alphabet à l'intérieur de la cohérence de ce mot de Emet, la première lettre étant la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, et le même, la lettre du milieu de l'alphabet. Ça pourrait être dit encore d'autres manières, mais je crois que l'idée est suffisamment claire. Et encore une fois, par définition, l'histoire du monde devait commencer dans le désordre absolu, mais un ordre de la vérité du monde doit se dégager dans l'organisation des lettres de l'alphabet. Ça peut être dit, encore une fois, d'une autre manière, mais j'espère que c'est déjà suffisamment clair. Je donnerai simplement comme complément un autre terme hébraïque, c'est le terme de metziout. La metziout, c'est la réalité. Emet, c'est la vérité. Il y a une analogie de l'être entre ces deux termes, que je vais rappeler très brièvement, que ce soit bien visualisé. Emet, Aleph, Mem, Tav, la vérité. Metziut, Mem, Tzadik, Yud, Aleph, Vav, Tav, la réalité. Il y a dans la réalité les trois lettres du mot de Emet. En plus, il y a trois autres lettres. Tzadik et Vav, Tzav. Tzav que vous trouvez dans le mot de Mitzvah. La racine hébraïque d'où viennent ces deux termes, mitzvah, le commandement, l'ordonnance, le commandement qui permet qu'un ordre apparaisse et qui donc est transmis par un ordre, et la lettre yud. Je crois qu'on pourrait exprimer cette analogie des deux termes de la manière suivante. Tzav, le commandement, l'obligation, consiste à faire s'introduire la vérité dans la réalité. Le tzav fait que Emet devient Metziut. Ceci étant organisé, c'est indiqué par le lettre Yud, par les 10 paroles de l'organisation du monde au commencement. À travers ces indications, disons, sémantiques, linguistiques, apparemment verbales, c'est, je crois, l'idée qui est exprimé par ce commentaire que je vous cite à partir du Midrash, qu'il faut retenir. Il y a deux niveaux de l'être qui apparaissent. Le projet de vérité, qui est inaccessible à travers l'histoire contingente du monde jusqu'au moment où la vérité devient réalité et c'est l'homme qui a ce privilège de faire en introduisant par le biais de l'obligation morale, la mitzvah, de faire que la réalité reflète l'ordre de la vérité. Ou dit d'une autre manière, lorsque Emet est réalisé, alors c'est Metziut. On retiendra donc ces deux termes, Emet et Metziut. Je voudrais une indication qui a été donnée par un certain nombre de commentateurs kabbalistes, en disant que c'est avec l'alphabet de la langue de la Bible, de l'hébreu de la Bible, que Dieu a créé le monde. Vous connaissez le terme de Keveyachol. Keveyachol, c'est une expression du Midrash et du Talmud, utilisée aussi dans le Zohar, qui désigne la présence de Dieu dans son monde lorsqu'elle se laisse deviner. On traduit habituellement « pour ainsi dire ». Lorsqu'on dit que Dieu agit, qu'il intervient, alors que le monde n'est pas encore arrivé au stade de l'aboutissement de son organisation, de son achèvement, et que cependant, à travers le récit biblique, à travers aussi l'expérience de ceux qui savent diagnostiquer dans l'événement, cet incognito de la présence de Dieu qui, bien que caché, se laisse deviner lorsque l'ordre apparaît, alors on dit « keviachol », pour ainsi dire, comme pour dire. Eh bien, les kabbalistes expliquent que ce terme doit en réalité être compris de la manière suivante. Kavbet, les 22 lettres de l'alphabet, c'est le verbe créateur du créateur, c'est lui qui peut. Le Tout-Puissant se dit Keveyachol. C'est à travers les 22 lettres de l'alphabet que Dieu agit dans l'organisation du monde. Pour dire que, par analogie, si vous voulez, de la même manière que lorsque les éléments créés au début de l'organisation du chaos s'organisent, alors apparaissent les présences qui font les existants du monde. Ceci s'exprime au niveau du langage par l'ordonnance des mots qui organise les lettres et les mots expriment la réalité. De même que toute réalité est une combinaison des éléments des existants du monde, de même, chaque mot est une combinaison des lettres qui reflètent la réalité des existants. Keveyachol, comme pour ainsi dire, c'est-à-dire l'organisation des 22 lettres de l'alphabet, reflète l'organisation de la réalité de l'existence. Nous retrouvons d'une autre manière ces deux niveaux de lettres, l'être de vérité et l'être de réalité. Lorsque la vérité s'ordonne au niveau de la réalité, alors l'imperfection du monde s'efface et le monde arrive à son aboutissement. C'est le projet du récit de la Bible. Je vous en donnerai donc un exemple. Pour essayer de montrer comment la réflexion traditionnelle a essayé de suivre à la trace cette émergence de l'ordre de vérité dans la réalité, au niveau de la lecture du récit biblique lui-même. Eh bien, vous savez ce que dit le premier chapitre de la Bible, c'est qu'il y a un rythme du temps dans cette organisation du monde. Ce rythme du temps qui se reflète dans la semaine du calendrier hébraïque, les 6 jours de la semaine qui s'achèvent au 7e, qui se réalisent dans le 7e, 6 et 7. Le premier récit de la Bible montre que pour chaque jour de la création, il y a un projet qui doit se réaliser. Et on peut très facilement établir la lecture du plan de ce projet. Pour chaque jour, Vous en retrouverez l'intitulé dans le récit du premier chapitre. Il y a un projet qui est annoncé, le récit de ce qui se passe à travers le temps, où il y a un effort de réalisation de la vérité dans le monde des réalités, un bilan qui est formulé, un jugement, et ensuite on passe au deuxième jour, au troisième jour, jusqu'au septième. Je vous donnerai très rapidement l'intitulé du projet du premier jour, de façon de mettre en évidence ce plan. Et Dieu dit qu'il y ait lumière, c'est le projet. Et il y eut lumière, c'est le récit de ce qui a été réalisé. Et Dieu vit que la lumière était bonne, c'est le jugement porté sur ce qui est advenu. Et Dieu sépara la lumière de l'obscurité, c'est le bilan. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, et l'on passe au jour suivant. Au fur et à mesure que les jours se développent, ce plan se fait plus minutieux, le projet est plus formulé, comment dire, plus dans le détail. L'histoire de la réalisation montre les décalages qu'il y a eu entre la réalité et la vérité. Le bilan de séparation entre ce qui a réussi, ce qui n'a pas encore réussi, se fait de plus en plus impitoyable. Et ainsi l'histoire se développe jusqu'à l'achèvement du projet du Créateur. Voici donc l'indication que je voulais citer. Si vous lisez les versets concernant le sixième jour de la création, lorsqu'on aborde le récit de la cessation d'intervention du Créateur au septième jour, alors on retrouve de façon immédiate ce rythme des 6 et 7. Cette référence que je cite en mon début d'analyse est pour montrer comment le récit biblique suit. J'essaye d'éviter le terme de incarnation. Je voudrais traduire le mot de hébreu de Hakshama, le fait qu'un projet de vérité se réalise, devienne réalité. En français, on dit s'incarne, mais c'est un terme qui a trop d'implications théologiques, donc je l'ai signalé, mais pour le retirer immédiatement. Eh bien, vous savez que ces versets que nous lisons dans le Kiddush du vendredi soir commencent par Yom Hashishi Vaichulu Hashamaim Vaarez Vechotsevaam. Vous retrouverez ces versets. Alors je vous donnerai une indication. À partir de la première lettre, Yom Hashishi, c'est le Yud. Il suffit de compter 6 lettres, puis la 7e. Et l'on arrive à mettre en évidence un mot qui apparaît. La 7e des 6 lettres successivement. Et qui indique le projet du 7e jour. C'est le mot de Israël qui apparaît. Or, il n'y a aucune chance que ce soit uniquement une coïncidence mécanique. Il y a là la formulation d'un texte qui raconte l'effort de réalisation que j'essaie de vous décrire, un projet de vérité qui devient réalité, et il apparaît de façon inattendue dans l'organisation des lettres du récit que s'organise dans la réalité du monde un projet qui se nomme Israël. Je pourrais multiplier de différentes manières et à beaucoup de registres ce genre d'exemple. Mais c'est surtout pour indiquer que dans l'exigence de recherche de vérité qui définit la pensée humaine à la recherche de la signification de sa destinée, il y a eu un événement, celui de la révélation hébraïque, où c'est la vérité qui s'est révélée. Ce n'est pas l'homme qui interroge un écran impersonnel qu'il nommerait la vérité, et l'homme répond lui-même à sa question, ça c'est la pensée humaine autonome, immanente, c'est l'événement de révélation où un discours a révélé le récit de l'histoire que nous vivons et où une vérité tente d'émerger et d'organiser ce chaos de la réalité dont j'ai parlé tout au début. Je crois qu'on pourrait multiplier les exemples. Je vous ai dit dans l'analyse de l'ensemble des sujets de ce séminaire, d'indiquer qu'il y a une différence de nature entre la pensée prophétique et d'autre part ce que j'appellerais l'attitude philosophique de recherche de la vérité. Eh bien, je voudrais en deuxième point essayer de situer l'objet de la perplexité de la pensée traditionnelle par rapport à ce qu'est l'objet de la perplexité de la pensée philosophique. Lorsque on explore, chacun à son niveau, d'érudition, d'éducation, de lecture, d'approfondissement, l'univers de la pensée humaine, lorsqu'elle est considérée comme pensée autonome, c'est-à-dire l'homme découvrant une exigence de la recherche de signification de sa destinée et interrogeant la vérité. Et comme je viens de le dire immédiatement, mais je le répéterai de différentes manières, la grandeur de la pensée philosophique, c'est sa lucidité. C'est-à-dire le philosophe est l'homme qui interroge la vérité, mais qui sait que c'est lui qui répond lorsqu'il dit que c'est la vérité qui répond. C'est au niveau de cette dignité, honnêteté, de la lucidité, encore une fois, de la pensée philosophique, qu'il faut désigner sa grandeur. Mais nous verrons d'ailleurs que cette grandeur a des implications aussi de conscience tragique. Lorsque l'homme sait que c'est lui qui répond, lorsqu'il interroge la vérité, eh bien il sait qu'aucune vérité n'a répondu. C'est lui qui a répondu. Mais, en tout cas, dans cette exploration du discours philosophique, on s'aperçoit que la perplexité fondamentale, c'est la question de l'homme. Je crois qu'on pourrait définir ainsi l'univers de la pensée philosophique. C'est l'homme s'interrogeant sur la question de l'homme. Chaque fois qu'une connaissance, de quelque sorte que ce soit, est rattachée à la question de la signification de la destinée humaine, il y a une dimension de réflexion philosophique. Quelle que soit la connaissance rencontrée, dans quelque ordre de science que ce soit, lorsque le penseur rattache la connaissance qu'il a eue à la question de l'homme, il y a philosophie. Ou pour le dire d'une autre manière, il n'y a philosophie que lorsque l'homme est inquiet de sa propre existence. On pourrait le formuler de la manière suivante. C'est que le problème de la philosophie, c'est de se demander à quelles conditions l'idée de l'homme doit répondre pour être cohérente. Ou d'une autre manière, à quelles conditions la pensée peut être assurée de la cohérence de l'existence de l'homme. J'ai souvent cité une expression d'un philosophe contemporain qui était Vladimir Yankelevitch et qui définissait l'homme comme un impossible nécessaire. C'est-à-dire que l'homme se connaît, lorsqu'il se connaît en toute bonne foi, comme un être qui n'aurait pas dû pouvoir exister, et qui cependant existe. C'est pourquoi impossible, nécessaire. C'est pourquoi l'on peut dire que la pensée philosophique est essentiellement une pensée en question. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est tout entière question. Il n'y a pas de réponse en philosophie. Ou du moins, s'il y a des réponses, elle consiste à ouvrir d'autres questions. Ceci est une indication d'un philosophe français, presque contemporain encore, qui était Alain, qui a formulé cela dans une phrase très claire. Le génie philosophique consiste à faire apparaître de toute réponse une question nouvelle. Nous avons dans le Midrash une formulation assez parallèle qui consiste à dire que chaque fois qu'on ouvre une porte, c'est pour se trouver devant une porte qu'il y a encore à ouvrir. Mais je crois qu'il faut bien situer la perplexité de la pensée philosophique. C'est la perplexité de l'homme, perplexe, inquiet concernant l'existence de l'homme. Par rapport à cette définition de l'univers de la philosophie, il est très aisé de définir l'univers de la pensée théologique. La pensée théologique est une perplexité sur la notion de Dieu, c'est-à-dire à quelles conditions de cohérence intellectuelle l'idée de Dieu doit répondre pour être cohérente. Et donc nous avons d'un côté le philosophe qui est inquiet de l'existence de l'homme, et d'autre part le théologien qui est perplexe concernant l'existence de Dieu. cela semble peut-être paradoxal de le formuler ainsi. Mais la pensée traditionnelle, elle, a une toute autre perplexité. Elle n'est pas du tout perplexe concernant l'existence de l'homme, l'homme est le sujet de la pensée. Elle n'est pas non plus perplexe concernant l'existence de Dieu. Dieu est connu comme le créateur du monde, de l'homme. La pensée traditionnelle et sa perplexité est celle de l'existence d'un monde. C'est-à-dire, à quelles conditions un monde doit répondre pour pouvoir exister. Ou bien Dieu existe et il est tout, il est l'absolu, il n'y a pas de place pour l'existence d'un monde. Ou bien c'est l'homme qui existe et tout ce qu'il connaît n'est que représentation de sa pensée, il n'y a pas de place pour le monde. Et je crois que la pensée traditionnelle est très spécifiquement définie entre l'univers de la pensée philosophique et l'univers de la pensée théologique. La pensée traditionnelle, c'est l'exégèse de la révélation de la prophétie. Eh bien, je voudrais analyser la signification que le texte du Talmud a donnée au terme de philosophe. C'est une référence qui se trouve dans le traité de Shabbat. Je vous donnerai tout de suite la référence. C'est la page 116a. Et dans le traité de Shabbat, le mot de philosophe est employé à propos d'une controverse, d'une discussion entre un philosophe et les rabbins. À ce propos, Rashi donne comme commentaire du mot « philosopha » le mot de « min ».« Min », cela signifie en hébreu « hérétique ». Je vais faire très rapidement l'étymologie sémantique de ce terme. « Min », en hébreu, ça veut dire « une sorte »,« une manière ». Et une particularisation par rapport à la vérité qui se détache d'elle, c'est une hérésie. C'est pourquoi le mot de mine est employé pour dire hérétique. Vous connaissez cette expression qu'on emploie souvent, en particulier dans le Shmoneh Esrei, la malchinim et la minim altei tikva. Lorsque une équation personnelle, une opinion individuelle se détache de l'évidence commune, qu'elle fait un parti pris de vérité, alors risque d'apparaître la déviation, ce qui se dit donc au niveau du dictionnaire, une hérésie. Eh bien, ça ne ferait pas tellement problème. Le philosophe est désigné par le contexte talmudique comme étant une pensée hérétique, qui par définition n'admet pas qu'une révélation ait eu lieu. Et ça ne ferait pas problème si dans un autre traité du Talmud, Rashi lui-même nous donnait une toute autre définition très paradoxalement opposée. Et dans le traité de Avodah Zara, à la page 54, le mot de philosophe est expliqué par Rashi par l'expression « Chachmei Umot Haolam », les sages des nations. Il y a donc une tension entre ces deux définitions. D'un côté, le philosophe est considéré comme hérétique parce que par définition, il n'admet pas qu'une révélation ait eu lieu. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point de l'analyse. Mais d'autre part, le philosophe est considéré comme un sage. Lorsque on étudie les contextes de ces deux références, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout contradiction. L'explication de Rashi, que le philosophe est un hérétique, se trouve, comme je vous l'ai dit dans le traité de Shabbat, dans un chapitre qui s'intitule « Kitvei HaKodesh », c'est-à-dire c'est la définition de ce que l'on doit considérer comme livre révélé. Ou pour le dire en termes un peu plus habituels, ce que l'on doit considérer comme le canon des livres révélés. Et il s'agit, bien entendu, de la révélation biblique, de la révélation hébraïque. Dans l'étude de ce chapitre, à quels critères doit correspondre un livre défini comme livre révélé pour être considéré comme authentique, le terme de philosophe est défini par le mot hérétique, min, par Rashi. Tandis que dans le deuxième traité, il s'agit de l'idolâtrie. Le traité de Avodah Zarah étudie les caractéristiques de définition, de critères de qu'est-ce qui est idolâtrie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors je proposerai l'explication suivante. Le philosophe est celui qui nie qu'il y a eu révélation. Lorsqu'il s'agit de la révélation biblique, le texte du Talmud le définit comme hérétique. Mais lorsqu'il s'agit de l'idolâtrie, il le définit comme sage. Je reprendrai la définition de façon peut-être plus simple. Le philosophe nie qu'il y ait eu révélation. S'il s'agit d'une révélation fausse, celle de l'idolâtrie, il est considéré comme sage. S'il s'agit de la révélation de la Bible à proprement parler, il est considéré comme hérétique. D'où cela vient-il? Eh bien, les commentateurs de Rashi, les premiers, les Tosafistes, expliquent de cette manière l'explication qu'a donnée Rashi. Alors je vais vous le lire dans le texte. À propos du mot « philosopha », « min », « hérétique », « que des pirages pas contraste », comme Rashi l'a expliqué dans son commentaire. « Verabenu » et notre maître, disent les Tosafistes, « Shama, mi Yehudi echa sheba miret yavan » Regardez l'humour des Tosafistes. Notre maître a entendu d'un juif qui venait de Grèce, Ve'amar, qui a dit, de Bilchon Yavan, qu'en grec, philosophe ou dod ahochma. Philosophe, ça signifie amant de la sagesse. Effectivement, c'est l'étymologie grecque, celui qui aime la sagesse, et j'y reviendrai. Ça semble un peu paradoxal. C'est-à-dire, les Tosafistes disent, le philosophe, selon l'explication de Rashi, c'est l'hérétique. Mais en grec, ça signifie celui qui recherche la sagesse. Il semble bien que les Tosafistes ont voulu nous montrer qu'il y a là une indication importante. Si nous sommes en registre hébraïque, philosophe, ça veut dire hérétique. Mais si nous sommes en registre de culture grecque, ça veut dire l'homme qui recherche la sagesse. Nous essaierons de comprendre quel est, disons, l'aveu qui est donné par l'étymologie même du mot de philosophe. Un homme qui recherche la sagesse avoue dans sa conduite qu'il ne la possède pas. Il y a donc une différence entre le sage, qui est censé posséder la connaissance, et le philosophe qui dit qu'il la recherche. Bien historiquement, il y a eu un phénomène que je vais essayer de vous décrire, de telle sorte d'éclairer ce point de l'analyse de notre problème. Lorsque la Bible nous dit qu'il y a eu révélation, elle parle de la révélation du Créateur de l'univers, entendu comme Dieu unique. Si le Dieu unique se révèle, alors il se révèle à l'échelle universelle. C'est-à-dire, si l'on prend au sérieux la définition monothéiste du Créateur qui se révèle dans son monde, alors on doit admettre que lorsqu'il se révèle, cette révélation est à l'échelle universelle. Et effectivement, c'est ce que dit le récit de la Bible et qui est très peu souvent entendu, que l'on remarque peu souvent. C'est que la révélation du Dieu de la Bible ne s'adresse pas à une tribu, à un peuple en particulier, et que cela. Il ne s'agit pas d'une monolâtrie. Le monothéisme hébreu n'est pas une monolâtrie, c'est-à-dire la reconnaissance d'un Dieu qui ne s'occupe que de ceux qui le reconnaissent. Il s'agit du Créateur des univers, du Créateur de notre monde. Un monothéisme strict signifie qu'un Dieu un, unique, qui lorsqu'il se révèle à l'échelle de l'universel. Et d'après le récit biblique et la manière dont la tradition du Midrash et du Talmud en rend compte, au temps où la révélation a eu lieu, elle a eu lieu pour toutes les sociétés à la fois, avec une différence de nature. Lorsque cette révélation s'exprime à travers les prophètes d'Israël, et j'essaie d'en rendre compte, et lorsque cette révélation est recueillie ou entendue par les prophètes des nations. Et là, il y a une catégorie sur laquelle il faut bien réfléchir. C'est la Bible qui nous parle des prophètes.